dans Dire et des Nouvelles,
Jean-François Cadet,
Mickaël Goncalves,
Baptiste Antoine.
Bonjour, bonsoir. Pour la troisième fois, Paul François a gagné. La justice française vient de donner raison à cet agriculteur, céréalier des Charentes, et condamné la firme américaine Monsanto pour sa responsabilité dans son intoxication à un herbicide qui lui a fait frôler la mort. Il souffre d'ailleurs encore de graves troubles neurologiques. Sylvain, lui, n'a pas survécu à la leucémie aiguë qu'il a envoyée à l'hôpital. Sylvain était ouvrier agricole et c'est son calvaire que nous raconte le livre à la fois précis, terrible et poignant dont nous allons parler aujourd'hui. Un ouvrage qui tient du récit de vie, du témoignage d'amour et du réquisitoire. Un livre qui nous parle de la maladie et de la mort, du progrès et de la science, de l'agriculture et de l'industrie chimique, des rapports entre un malade et son entourage, proches, infirmiers et médecins, mais aussi de la force de l'écriture et de la littérature. La malchimie de Gisèle Bienne est paru chez Actes Sud et vous m'en direz des nouvelles. Bonjour Gisèle Bienne.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Tu écriras là-dessus, vous dit votre frère Sylvain lors de son hospitalisation. Il n'est pas le seul, il y a un infirmier notamment qui vous incite aussi à écrire. Et à chaque fois, vous esquivez, vous repoussez cette idée. Pourtant, le livre est là, hein, il est sur la table du studio à côté de moi. Qu'est-ce qui finalement vous a convaincu de passer à l'action et d'écrire ce livre ?
Ce qui m'a convaincu, c'est de sauver une part de l'enfance de mon frère. Nous étions inséparables dans l'enfance et nous avons connu un temps qu'on pourrait dire aujourd'hui heureux malgré ses grandes difficultés. Mon père avait une ferme dans l'Aube, en Champagne, et nous avons travaillé tous les étés, mon frère et moi, dans les prés et dans les champs, alors que nous ne connaissions pas les engrais ni les pesticides. Évidemment, c'était presque paradisiaque par rapport à aujourd'hui. Ça grouillait de petits animaux, ça sentait bon, c'était fleuri, c'était absolument magnifique.
Il y a toute une série de flashbacks hein, qui parsèment le roman. Où on a vraiment l'impression de deux enfants qui jouent, qui s'amusent, qui sont en parfaite communion avec la terre.
Et qui travaillent beaucoup, qui ne craignent pas la fatigue, l'épuisement, qui se sentent, si vous voulez, actifs et responsables, participer à un ensemble. En fait, c'était l'époque où on travaillait en commun, où les paysans avaient encore un pouvoir faire, choisissaient leurs semences, choisissaient les céréales qu'ils allaient faire pousser. C'était un temps difficile sur le plan matériel, mais heureux parce que nous connaissions une relative indépendance dans le travail.
Oui, alors ce livre n'est pas un roman, c'est bien un récit. Hein, oui. Donc il raconte des faits réels. L'idée, c'est donc de témoigner, de raconter ce qui s'est passé, de dénoncer aussi. Il y a une forme de résilience à travers le travail d'écriture que vous avez mené.
Sans doute. Et votre première question, elle est très importante parce que pour l'écriture, ça a été difficile. J'aimais beaucoup ce frère. Vraiment, c'est une part de moi. Et quand on a parlé de l'écriture, je lui ai presque demandé son autorisation. Je sentais que il y avait peu de chances qu'il survive malgré mon espoir énorme. Et je lui ai dit, est-ce que je peux écrire librement ? Il a dit, quand on fait un travail, on le fait à fond. Donc, vas-y. Et je lui ai dit, mais et sur les pesticides ? Il m'a répondu, c'est toi qui vois.
Voilà, et c'est dans le livre, effectivement, c'est dans le livre, le lecteur découvre ce moment effectivement très fort, moment fondateur finalement, qui est un peu à la base de ce livre. Un récit, je le disais, et pourtant il y a une prise de distance, parce que la narratrice, le personnage principal, ne se prénomme pas Gisèle, elle a un prénom qui commence par un G aussi, hein. En l'occurrence Gabrielle, vous aviez besoin justement de cette prise de distance-là.
Je n'aurais jamais pu utiliser les vrais prénoms parce que c'était trop direct, ça ne permettait pas la distance pour le jeu, enfin le travail de l'écriture. J'aimais beaucoup le prénom de Sylvain. Gabriel, ça me ressemble, c'est cependant quand même la vie de mon frère qui est là, hein, dans le livre, et une grande part de notre enfance, puisque nous nous sommes séparés quand même, c'est les classes sociales qui un jour, enfin si on peut appeler ça les classes sociales, parce que moi je ne sais pas de quelle classe je suis finalement, je suis un peu de tout bord, mais bon, j'ai fait des études, à Nancy, et lui, il aimait le travail des champs, et il a donc été ouvrier agricole.
Ouais, vous assistez énormément d'ailleurs sur le fait qu'il soit ouvrier, il n'était pas patron agricole, il était ouvrier agricole, ça c'est très important.
C'est important parce que il aimait les champs, il n'avait pas le choix. Mon père avait une ferme et il l'a transmise au frère aîné. Donc lui, c'était mon petit frère, il n'y a pas eu droit. Il est parti, il a quitté la ferme avec son baluchon. Il s'est placé dans les fermes. À la deuxième ferme, il s'est trouvé bien, on l'a gardé, c'était un bon ouvrier. De plus, il faut quand même savoir qu'aujourd'hui, les grandes fermes utilisent un ouvrier, c'est tout, puisque le travail maintenant, ils sont seuls ou ils sont à deux, et que c'est quand même l'ouvrier qui fait une partie du travail ingrat, à savoir qu'il traite les champs avec ces fameux pesticides.
Il faut traiter. Oui. Traiter, c'est évidemment un verbe qui est au cœur de l'ouvrage. L'ouvrier, c'est celui qui traite, autrement dit, c'est celui qui prend son risque.
Oui, mais il ne le savait pas. Et quand il était à l'hôpital, en chambre stérile au départ et ensuite au CHU, donc de la ville où j'habite, je me suis rendu compte qu'il faisait une confiance aveugle en la science. Il avait une confiance aveugle en la science. Pour lui, Monsanto, Bayer, c'était des scientifiques qui avaient testé leurs produits. De même qu'il avait une confiance aveugle en la médecine et qui ne ça s'appelle produit phytosanitaire, produit phytopharmaceutique. Donc, c'est l'ami des plantes, selon la publicité de Monsanto. C'est un produit, en grande partie, biodégradable. Donc,
il n'avait pas de problème. Il ne pouvait pas imaginer ce qui allait lui arriver. Alors, vous évoquiez la chambre stérile à l'instant, Gisèle Bien. Il y a des dialogues dans le livre entre le personnage de Sylvain et le personnage de Gabriel. Dialogue en blues et en Charlotte. Et puis apparaissent les premiers effets du traitement par chimiothérapie. Je dis bien chimiothérapie. Et là, il y a une ironie du sort qui est absolument terrible, parce qu'en fait, c'est par la chimie que l'on combat les effets de la chimie, de la malchimie, pour reprendre le titre du livre.
Voilà, il y a les deux traitements. En fait, il va être victime, il est tombé gravement malade, victime des traitements avec les pesticides, et il est traité par la chimie, dans les chimiothérapies intensives qu'il a subies, qui l'ont amené à l'aplasie, puisqu'on détruit toutes les cellules du sang, c'est une leucémie aiguë, pour qu'après, on en fasse de nouvelles. Donc, il n'y a plus d'immunité, ça semble presque impossible qu'on en refasse de nouvelles. Et je m'aperçois d'une chose en parlant avec une visiteuse dans les vestiaires qui venait voir son mari, c'est que les produits avec lesquels on le soigne, les poches de chimio, c'est Bayer qui les fabrique.
Voilà, donc ça c'est évidemment
un choc. Et là vraiment,
j'étais
un choc, oui. Voilà. Ça reste un choc. Oui. Je reste choquée, je dois le dire, de beaucoup de choses que j'ai découvertes en peu de temps sur la science.
Oui, on a l'impression que c'est le cynisme absolu, effectivement, du fonctionnement de la société.
Oui.
Alors vous faites d'ailleurs l'analogie très vite entre l'agriculture et la santé. Vous écrivez, Gisèle Bien, les champs d'aujourd'hui sont à l'image des personnes avalant quotidiennement tranquillisants, somnifères, antibiotiques, autres pilules et cachetons. Ça veut dire que la place de la nature n'existe plus aujourd'hui dans l'agriculture moderne, et que la terre, elle est malade, comme la société et ceux qui la forment sont malades.
Hélas, pour une grande part, je crois, oui, parce que je me suis rendu compte que ne parlons pas des hôpitaux qui donnent des médicaments énormément pour combattre ces maladies-là, et ces médicaments ont des effets secondaires qui vous donnent des maladies. Donc, si on essaie de soigner votre maladie, vous aurez des cancers, et il en a eu d'autres qu'on lui a caché. Donc, de toute façon, le menait à la mort, de différentes façons, et de plusieurs façons. Et je crois, oui, qu'on a perdu un sens de l'équilibre, peut-être un savoir que j'ai connu encore enfant, où on se soignait soi-même aussi, et où on ne craignait pas le mal autant que ça, donc on n'avait pas recours aux médicaments. On acceptait aussi de souffrir et d'avoir mal. Ça fait partie de l'expérience, ça fait partie de la nature humaine.
Et Sylvain, lui, il va en prendre à des médicaments. Et puis un jour, un médecin constate que 37 nouveaux globules blancs sont apparus dans son sang. Ça, c'est un sacré événement que Gabriel et lui vont fêter tous les deux à la cafétéria de l'hôpital. Nous sommes page 172 de votre livre.
En bas, une petite table nous attend. Je commande deux Perrier citron et des cacahuètes. Sylvain, violemment ému, regarde le sol, les murs, les gens. Ses grands yeux ronds se posent sur la serveuse au bar, une femme assise sur un banc dans le hall donnant le biberon à son enfant, les gens attablés près de nous, la couleur des breuvages, deux petites filles qui courent entre les tables. Il capte les voix, s'imprègne des bruits, étonné d'être sorti de sa cellule où tant de fois on lui a transfusé du sang, donné des antibiotiques, des antalgiques, de la morphine, du sérum, de la cortisone, ajouté des plaquettes où on l'a mis sous oxygène, lui a fait des tests, des injections intraveineuses, des ponctions douloureuses, des prises de sang, des prélèvements bactériologiques, où l'on a mesuré sa tension, surveillé son rythme cardiaque, où tant de fois il a dû se lever pour aller uriner, se vider les intestins, subir des crises de tremblement à en claquer des dents, où il a grelotté de fièvre, la gorge brûlante, et se furent des glaçons sur sa nuque, et chaque jour il guettait en fin de matinée la visite des médecins, espérait une amélioration, et chaque après-midi, vers 3 heures, il attendait la visite de sa famille, de ses amis. Rare qu'il ne voit pas se pointer le bout d'un nez, comme il disait. Il joue à la belote, ceux du fond. Un rayon de soleil frappe notre table. « Mes semblables », dit Sylvain, et ce n'est pas la première fois qu'il emploie cette expression. Il parle. De son passage en réa, ça vous sonne ? Car à travers le dédale des couloirs, Sylvain avait bien atterri à l'URP. « On est là, non ? On y est. » Du bout des doigts, il tapote sur la table. Je tapote avec lui, et nous composons un air enlevé. Nous sommes là, au milieu des autres. J'emplis nos verres, nous rions beaucoup. Il avale une première gorgée. Santé ! Pas mauvais ! Bien frais ! L'eau gazeuse nous saoule, nous tapotons encore sur la table, en harmonie et longtemps. Il va guérir ou entrer en rémission, défier les statistiques, je veux le croire, je le crois. Je le prends en photo. Attends ! Il rectifie son maintien, repositionne la casquette sur son crâne et fixe l'appareil. Photo souvenir. Chez lui, il se mettra à l'informatique. Corinne l'initiera. Je te dépannerai au besoin. Quoi de neuf ? Il m'interroge comme si je lui arrivais brusquement d'un lointain extérieur. Et sans doute, était-ce une Gabrielle différente qu'il avait sous les yeux dans sa chambre là-haut ? Une cosmonaute engoncée dans sa tenue verte, un peu crispée sur sa chaise, lui tenant d'étranges conversations, passant du coq à l'âne, une grande sœur qui n'éclatait pas de rire, n'emplissait pas son verre d'eau pétillante, ne se levait pas pour aller lui acheter des mouchoirs en papier, pour le photographier avec sa belle casquette et ses clins d'œil de voyou. La Gabrielle de la chambre stérile a su lui tenir compagnie, oui, mais celle qui trinque cet après-midi avec lui a un petit air d'inconnu. Elle paraît plus jeune, joyeuse, coquette, c'est la sœur retrouvée, l'enfance retrouvée, la vie de tous les jours retrouvée.
Ce passage, Gisèle Bienne, c'est une parenthèse. Oui. Une parenthèse enchantée.
Oui, oui, c'est un moment d'espoir fabuleux. On se donne des nouvelles l'un de l'autre. Il a surmonté les pires difficultés. Il était joyeux, il était très présent, il était généreux, il avait un charisme extraordinaire. Tout ça s'est rejoué à ce moment-là. La cafétéria, c'était devenu ma seconde maison. J'ai connu des moments d'espoir et de désespoir, et il était là, il oubliait tout. Je crois que si j'avais amené un jeu de cartes, on aurait joué aux cartes, et puis il aurait tout oublié. Et il était content, il avait l'impression d'avoir remporté une première victoire, et en même temps, il me cachait le fait que ce n'était pas tout à fait le cas.
Voilà, et ensuite il y a une vraie descente aux enfers, hein, oui. Que vous décrivez avec des mots extrêmement violents. Vous décrivez la dégradation, la souffrance physique, la souffrance psychologique. Aussi, comment est-ce que vous les avez choisis, ces mots-là, Gisèle Bienne, comment est-ce qu'ils vous sont venus sous la plume?
Alors, je ne sais pas, mais j'avais, pour écrire à partir de lui, il me semble que j'avais un pouvoir de concentration incroyable, qui était celui qu'on partageait dans l'enfance. On voulait travailler très très bien, ne jamais décevoir les parents, nous aimions les bêtes, nous aimions le cosmos, nous aimions tout. Et il fallait que mon livre ressemble aux gestes que nous avions, que nous partagions dans un petit monde à nous. J'ai quand même beaucoup travaillé, beaucoup relu, en fonction aussi de la musique des phrases. Non seulement de la précision des termes, car je crois que nous n'avons pas le droit à l'erreur si nous abordons le domaine scientifique, en tout cas de là où il en est dans les recherches, ou le domaine historique. Mais aussi, quand nous traitons de l'autre, il faut le respect. Pour moi, ça compte beaucoup.
Alors le respect, ça compte aussi beaucoup pour le personnage de Sylvain.
Oui.
Et il va... en vouloir, je crois qu'il ne faut pas dire les choses autrement, il va en vouloir à son médecin, parce que la façon dont la question de la vérité, j'allais dire, a été traitée, mais n'a pas été traitée, plus exactement, ça lui a été extrêmement douloureux.
Oui, alors là, nous avons partagé un moment terrible tous les deux. pour la première fois, je crois, je dirais pas de sa vie, mais en tout cas du temps qu'il était à l'hôpital, enfin, avec des allers-retours chez lui, ça a duré 9 mois. Il m'a appelé un matin, il m'appelait jamais. Il n'avait pas de portable, il ne voulait pas de ce fil à la patte, comme il disait. Il m'appelle pour me dire, on ne me fait plus la chimio. Ils ont arrêté la chimio, ils me gardent dans cette chambre en face du bureau des infirmières et il croit que j'ai un pouvoir. Parce que j'écris, peut-être parce que j'écris des livres, j'ai un pouvoir sur les médecins, sur je ne sais qui, où on va intervenir et lui trouver un traitement miraculeux, parce qu'il sait que c'est la fin. Mais je n'ai pas de pouvoir. J'écris simplement une lettre à un médecin que je ne vais pas envoyer. Mmh. Et je vais le voir et il me raconte comment ça s'est passé avec son hématologue qu'il aimait beaucoup, qui lui faisait toutes les semaines cette piqûre de Vidaza. Une fois de plus, il croyait en la science de ce médecin, comme il a cru aux produits phytosanitaires, qui nous ont d'ailleurs permis, pendant une époque, de sortir d'une relative pauvreté. C'est compliqué sur le terrain. C'est très compliqué, tout ça. Et là, il ne voulait pas de consolation. Il aurait eu besoin qu'on le traite dignement, en souvenir de tous ces mois de soins partagés avec son hématologue, avec d'autres. Et il a eu l'impression qu'on ne le traitait pas vraiment comme l'individu digne et beau qu'il était. D'ailleurs, à ce titre-là, je m'en réfère à un livre de David Rief sur sa mère, Suzanne Sontag, qui est morte d'une maladie semblable plusieurs années avant et qui aborde ces questions.
Mort d'une inconsolée, les derniers jours, oui, de Suzanne Sontag. Qui est morte effectivement d'une leucémie. C'est un des livres qui accompagne le personnage de Gabriel d'un bout à l'autre du livre. C'est vraiment un compagnon de route, cet ouvrage.
Il y a des hasards quand même, parce que je tombe sur ce livre à la médiathèque de Reims, juste au moment où on me dit que mon frère entre à l'hôpital pour une leucémie aiguë, et elle est atteinte d'un mal semblable. Mais Suzanne Sontag, c'est quelqu'un qui a une énergie fabuleuse, une Américaine qui ne peut pas imaginer que la mort existe pour elle. Pas un instant. Ça n'est pas possible. Elle va tenter. Elle est revenue de 2 cancers déjà qui ont fait qu'elle a cette maladie, surtout pour le deuxième. Et elle va tout tenter, dont une greffe de moelle osseuse, puisque la maladie, c'est cellules terribles, les blastes dans la moelle osseuse des os. Elle va tenter une greffe qui ne peut visiblement rien donner. Mais s'il y a une chance sur 1 million, elle la tentera, au prix d'une souffrance extraordinaire, pour un gain de vie qui lui permettrait enfin d'écrire de la fiction.
Dirait des nouvelles sur RFI.
Du saxophone de John Coltrane dans VMDN sur RFI. Coltrane, dont la musique accompagne le personnage de Gabriel dans ce récit, La Malchimie, que vous publiez chez Actes Sud, Gisèle Bienne, et vous insistez sur ce que vous appelez la fraternité du jazz. C'était votre frère, Coltrane, face à cette épreuve?
Écoutez, j'ai l'impression que je l'ai ressenti davantage en traversant cette expérience quand je rentrais le soir, après avoir pris le tramway, puisque je me rendais là-bas. C'est un petit peu le vecteur, hein, entre chez moi et cet hôpital qui était quand même assez loin, en dehors de la, pas tout à fait en dehors de la ville, mais assez loin de chez moi, qui suis au centre-ville. Je mettais de la musique ou j'écoutais de la musique et là, plus que jamais, je suis entrée dans cette musique. Je suis entrée dans cette musique, il disait, je joue et si je peux rendre la santé à un malade, je la rendrai. Si je peux donner la richesse à un pauvre, je la lui donnerai. Et je comprenais, il y avait, dans ces moments-là, on est très, très sensible parce que les hôpitaux nous apprennent toute la vie et on entend ce qu'il peut y avoir derrière ces notes si belles. C'est beau en pleurer, quoi. Mais de bonnes larmes. De bonnes larmes.
Donc il y a la musique, il y a aussi les livres et les écrivains. On évoquait David Riff et Susan Sontag à l'instant. Il y a aussi Albertine Sarrazin,
ah oui,
hein, la romancière qui
est l'aimais beaucoup adolescente. Je l'aimais beaucoup parce que cette fille de l'assistance publique, elle a fait les 400 coups et on peut comprendre ses difficultés. Elle a été placée dans des familles qui ne lui convenaient pas. Elle a fait de la tôle, comme je dis, et elle s'est échappée en faisant un saut très haut d'une prison. Elle a été récupérée par un taulard, Julien, qui a tout fait pour elle, enfin, qui lui a aménagé une maison, un petit coin d'écriture. Il croyait vraiment à son talent. Et elle est finalement morte sur le billard pendant une opération.
Et puis, il y a aussi Apollinaire. Et je voudrais qu'on s'arrête un instant sur Apollinaire parce qu'il y a ce vers qui revient à plusieurs reprises dans ce livre. Ouvrez-moi cette porte où je frappe en pleurant. C'est un vers extrait d'un poème qui s'appelle Le Voyageur, mmh, et qui apparaît pour la première fois dans une scène assez particulière du livre. Vous pouvez nous la raconter?
Je venais de voir mon frère. Bon, c'était un peu compliqué parce que la situation devenait de plus en plus précaire. Et je me retrouve, alors après, j'ouvre ces couloirs des chambres stériles où, par les vitres, je vois que les malades ne sont plus les mêmes. Où sont-ils passés? Souvent, pendant l'aplasie, c'est-à-dire quand ils n'ont plus de défense du tout, bien, ils ne résistent pas aux infections. Donc, ils meurent. Ça a failli être le cas de mon frère. Il avait réussi en... Bon. Et je me retrouve dans les vestiaires et je n'ai plus aucun repère. Je me demande où je suis, ce que je fais, comment va le monde. D'un côté, les champs traités de façon un peu monstrueuse. D'un côté, ces traitements terrifiants. Je perds tous mes repères. Je n'arrive même plus à ouvrir la porte. J'appuie sur un bouton, elle ne s'ouvre pas. Je ne comprends pas. Je me mets à nous revoir dans les prés quand nous étions tous les deux, que nous nous glissions dans la faille d'un saule qui trônait au milieu d'un grand pré où l'herbe était haute et où les vaches faisaient les folles et où j'avais apporté un grand rideau blanc pour entourer le tronc du saule et que nous soyons comme dans un berceau. Puis après, nous l'avions mis sur nos épaules et nous avions marché longtemps dans le pré comme deux petits mariés. Enfin, bon, je revois tout, mais je me dis, ce monde est fou, ça va pas, quoi. Je n'arrive pas à quitter. J'ai envie d'hurler contre mon bailleur, Monsanto. Puis finalement, l'infirmière arrive, elle croit que je pleure, mais je ris. Elle ouvre la porte, je me dis, mais elle appuie sur le même bouton que moi, j'ai pas réussi. Puis après, ce sont les portes des ascenseurs qui ne s'ouvrent pas. Et là, j'ai cru vraiment que je devenais folle.
Mais en plus, sur les boutons d'étage des ascenseurs, les numéros n'apparaissent pas.
Non, il n'y a pas de numéro, alors que j'ai pris des ascenseurs tous les jours, il y a les numéros. J'étais complètement perdue. Et je crois que depuis, j'ai des crises comme ça, où je perds mes repères. Et alors après, une infirmière me dit, mais non, ce sont nos ascenseurs privés, les ascenseurs publics sont ailleurs. Donc je me dis, elle va penser que je suis frappée d'Alzheimer. Pas du tout, simplement, c'est un temps et un monde à part.
Il y a la poésie, il y a la littérature, il y a la musique, et puis il y a aussi un autre personnage en chair et en os, celui-là qui s'appelle Kamel, que Gabriel croise régulièrement pendant ses fameux trajets en tramway. Vous avez publié d'ailleurs un petit livre qui s'appelle, oui, Le blues du tram. Alors là, c'est plus tellement le blues, hein, finalement, qui vous donne Kamel. C'est une petite lueur aussi d'espoir. C'est une sorte d'ange gardien, en fait, Kamel, qui apparaît comme ça pendant ses voyages.
On peut rencontrer des êtres qui sont bons, simplement, naturellement bons. Et donc, je prenais le tram, comme je l'ai dit tout à l'heure, et puis on s'est trouvés assis l'un à côté de l'autre, et la première fois, C'était au printemps, à peu près à cette période, et tous les arbres, vous savez, il y a des arbres d'ornement, c'est des cerisiers du Japon, roses. L'allée qu'on traversait avec le tram, c'était rose, c'était éblouissant, et puis après, il y en avait d'autres qui étaient blancs. C'était d'une beauté magique, et ça nous a fait sourire, et nous nous sommes serrés la main quand nous nous sommes séparés. Puis après, nous avons un peu guetté nos voyages pour réussir à être ensemble. Et lui souffrait d'un travail qu'il faisait, les travaux publics sur les grandes routes, avec, je suppose, les émanations des goudrons, etc.
Il a respiré la poussière
à défaut de manquer terre, vivre ou se laisser survivre,
entre choisir et subir.
Il a respiré la poussière,
travailler, paraître honnête, être un âme comme disait son père.
C'est ce que disait son père.
On le voit la terre ou le fer. Il a respiré la poussière,
par passion mais nécessaire,
de nourrir femme et enfant.
Restez seul maintenant
et prends soin de
un mensonge secret, une peine oubliée, des questions plus personne. Respirez, se relever, encore se battre et après, les réponses s'endorment.
Oiseaux en mer,
mais les courants d'air.
Aucun souffle n'a gagné la guerre.
On a gagné la guerre.
Il a respiré la poussière
à plein poumon, heureux et fier,
à en perdre ses repères, à bord d'attache sans fin, dormir frontière.
Un mensonge secret, une peine infligée, des questions qui résonnent. Respirer, se relever, encore se battre et après, les réponses s'annoncent puisqu'on respire encore. La poussière, puisqu'on respire encore.
On respire, on respire.
La poussière.
Poussière, un texte écrit et mis en musique par Philippe Véran et interprété par 28 chanteurs en lien avec l'Ardeva. L'Ardeva, c'est l'association régionale de défense des victimes de l'amiante, association qui en l'occurrence regroupe des victimes du nord de la France. Dans VMDN sur RFI avec la romancière Gisèle Bienne qui publie La Malchimie chez Actes Sud et le réalisateur Pierre Pézra nous a rejoint. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là. Votre film Les Sentinelles vient de sortir en DVD chez Destiny Films. Il retrace le combat de femmes et d'hommes qui s'attaquent à des industriels au nom de la santé publique. Vous faites référence au scandale de l'amiante, mais aussi aux pesticides. C'était une évidence pour vous de lier ces deux scandales, ces deux combats-là?
Alors en fait, j'ai fait ce film autour d'une figure centrale qui était mon père. Et là,
Henri Pézra.
Henri Pézra, qui, je pense au frère de madame qui a écrit ce livre. Et mon père était un chimiste. Et je trouve que le titre du livre, La Malchimie, est magnifique parce que mon père était un chimiste qui
chercheur CNRS,
chercheur chimiste au CNRS, qui toute sa vie a combattu contre la malchimie. Et finalement, si j'ai fait ce film, c'est aussi parce que lui, à travers lui et son combat, j'ai rencontré des personnages qui allaient devenir, ou des personnes qui allaient devenir les personnages de mon film.
Oui, votre père, hein, c'était le premier, en tout cas il était parmi les premiers à informer sur le danger de l'amiante, sur le caractère dangereux de l'amiante, et il a eu des responsabilités au sein du collectif Jussieu, hein, du nom de cette grande université parisienne dont le bâtiment était contaminé par l'amiante.
Était infesté d'amiante, et en fait il a pris la tête du collectif Jussieu, et c'est comme ça que, de par ses connaissances chimiques, il s'est intéressé à ce qu'était ce matériau qui tombait sur les paillasses des chercheurs, et ils se sont très vite rendu compte qu'il y avait déjà un peu de littérature, pas mal de littérature, sur la nocivité de... Et donc il est allé voir immédiatement les travailleurs de l'amiante, parce qu'il pensait que si eux risquaient quelque chose avec les paillasses, ceux qui travaillaient l'amiante en risquaient bien plus. D'où le titre du film, parce qu'il a toujours dit que les ouvriers étaient les sentinelles du milieu environnemental. C'est-à-dire qu'en fait, c'était les premiers exposés qui se retrouvaient devant ces matériaux toxiques et qui, en quelque sorte, pouvaient servir de sonneurs d'alerte, de lanceurs d'alerte par rapport aux dangers qui pouvaient frapper le reste de la population.
Voilà, les ouvriers et les ouvriers agricoles, comme le personnage de Sylvain aussi.
Exactement. Alors ça, c'est la première partie. Donc il a eu un rôle extrêmement important, justement, dans l'interdiction de l'amiante, qui a été très longue, puisqu'entre le début de sa lutte et puis l'interdiction finale, qui date de 97, il s'est quand même passé 25 ans, quoi, quasiment 25 ans. Donc c'est extrêmement long. Après, il a aidé plein de gens, notamment dans la chimie, dans l'industrie chimique. Et au début des années 2000, il a rencontré Paul François, puisqu'on a fait appel à mon père pour justement l'idée de Paul d'être indemnisé en tant que maladie professionnelle pour son premier accident.
Voilà, alors Paul François, c'est avec lui que commence le film. Paul François, c'est cet agriculteur qui monte comme ça au début du film les marches du tribunal pour affronter le géant Monsanto, lui faire reconnaître sa responsabilité dans son intoxication avec un herbicide qui s'appelle le Lasso. Il a réussi à le faire condamner. Confirmation en appel aujourd'hui même, hein, ce matin, Pierre Pazerin, enfin en début d'après-midi, c'est la troisième fois hein, qu'il remporte un procès. C'est pas encore complètement fini, mais pour vous, cette journée-là, cette décision de justice-là, c'est un moment important.
C'est un moment extrêmement important puisque, si vous voulez. Moi, j'ai filmé l'appel. Ce qui est dans mon film, c'est l'attendu de l'appel. On pensait que c'était quasiment fini, mais Monsanto est allé en cassation. Et là, c'est le résultat du retour en appel. C'est un moment extrêmement important. Malgré tout, Monsanto a encore la possibilité d'aller en cassation. Et je m'interroge quand même sur les lenteurs de la justice française. Parce qu'en fait, face à un homme seul, enfin, il est seul à attaquer. Bon, il a son avocat, François Lafort, qui est un homme extrêmement important. Il y a Annie Thébault-Mauny, qui était la compagne de mon père, qui l'aide beaucoup, et des tas de gens l'aident. Mais malgré tout, il se retrouve seul avec son affection chronique liée à son accident, à se battre contre un géant qui déploie des armées d'avocats et use de stratagèmes assez terribles.
Oui, c'est vrai qu'on a un peu l'impression que c'est la lutte du pot de terre contre le pot de fer. Hein. Wieselbien, vous avez évoqué dans votre récit le cas de Paul François, oui. Parce qu'on sent que vous êtes vraiment plongé dans le dossier des victimes de tous les scandales phytosanitaires. Vous parlez aussi de l'amiante, hein, d'ailleurs. Oui. Au détour d'un chapitre. Comment est-ce que vous avez réagi tout à l'heure, là, il y a quelques minutes à peine, quand vous avez appris la victoire judiciaire, la nouvelle victoire judiciaire, qui n'est peut-être pas la dernière, en tout cas qui ne sonne pas forcément la fin du film, mais qui donne quand même une part d'espoir.
Ouais, j'ai partagé les opinions de Paul François, à savoir que il disait « Je crois qu'il y a une justice et que justice sera rendue, et j'espérais qu'elle serait enfin définitivement rendue. » Et je trouve que Monsanto, permettez-moi l'expression, est gonflé quand même. C'est terrible. On se demande si on en viendra à bout en France. Parce que aux États-Unis, on remporte des procès, mais ce n'est pas la même justice. Elle repose sur des jurés. Et les jurés votent. Et ont été formés à apprendre ce qu'est un procès et ce qui se cache derrière les arguments des juges, des avocats, etc. Donc, on peut aller plus vite au but et plus justement. Tandis que chez nous, c'est très très différent. Et je suis contente, c'est une grande satisfaction. Néanmoins, ça reste quand même un peu amer.
Un peu amer. Alors oui. Vous relatez, hein, Wieselbien, on va dire l'aventure noire des pesticides et des produits phytosanitaires. Pardon d'utiliser ce mot que vous abhorrez. Hein, j'ai bien compris le mot phytosanitaire. Vraiment ne passait vraiment pas.
C'est vrai qu'on trompe les gens quoi sur le vocabulaire. C'est.
Oui, mais on a incité vraiment les agriculteurs à utiliser ces fameux produits, notamment dans les années 60. L'idée c'était de développer les rendements. C'est-à-dire en fait là on a une nouvelle preuve que l'enfer est pavé de bonnes intentions.
Voilà.
Et il y a cru, Sylvain.
Ah, mais ils y croyaient tous. De toute façon, c'était les 30 glorieuses. Il faut dire que quand même, à l'époque, c'était des petites ou moyennes fermes. Elles ont beaucoup changé d'envergure depuis l'emploi des engrais et des pesticides. Mais il n'y avait pas d'argent. Nous n'avions pas d'argent. La vie était difficile parce que nous trouvions dans une société où il fallait payer sans cesse. Quand sont arrivés les engrais et les pesticides, et que il y a eu une amélioration, vous voyez, on produisait 15 ou 20 quintaux à l'hectare, 30 parfois, on arrivait à produire 60, 70, 80. Et dans la grande plaine où mon frère travaillait, ils allaient jusqu'à 120 quintaux à l'hectare. On les appelait les 120. Ça a été trop, quoi. Ça a été trop. C'est De Gaulle, sous De Gaulle, le ministre de l'Agriculture, Pisani, qui décide du marché commun, le début de l'Europe.
On est en plein lancement de la PAC, hein, la politique agricole commune de l'Union européenne. Oui, donc il faut produire, il faut nourrir la population.
Soi-disant.
Il faut développer les rendements.
Oui, mais on retire aux paysans. C'était la classe qui était restée la plus indépendante, la plus autonome en France. Ils étaient maîtres à bord. C'est fini, c'est une fracture sociale très grande.
Et on a l'impression d'une sorte de fuite en avant, parce que vous citez donc Edgar Pisani, qui était un grand serviteur de l'État, qui était vraiment un haut fonctionnaire. Et il dit ceci donc en 1961, je cite la phrase, « Si demain le lait doit être rouge pour être vendu et les pommes carrées, il faudra que l'Institut National de la Recherche Agronomique se consacre à cette tâche pour que nous puissions obtenir des produits qui se vendent. » On est vraiment dans une fuite en avant incroyable, hein, Pierre Pezera. Et pourtant, encore une fois, l'enfer était pavé de bonnes intentions, puisque l'idée, c'était de développer l'agriculture, donc de permettre de nourrir les populations, de permettre aussi aux paysans de mieux vivre.
Oui. Bah, c'est la fameuse notion du progrès. Quel progrès ? En fait, il faut. Est-ce que c'est un progrès pour l'homme ou est-ce que c'est un progrès pour l'économie ? Et en fait, tout à l'heure, vous m'avez posé la question du parallèle entre l'affaire de l'amiante et celle des pesticides. Pour moi, c'est une évidence parce que finalement, les mécanismes qui sont utilisés par les industriels sont les mêmes, à savoir la désinformation. Pour l'amiante, il y a eu le comité permanent amiante qui a duré pendant une quinzaine d'années, qui a permis de prolonger l'utilisation de l'amiante, qui était créé par les industriels et qui a utilisé, au nom de la sauvegarde de l'emploi, etc., qui a utilisé les syndicalistes, les médecins, etc., pour pouvoir prolonger cet usage de l'amiante. Et par rapport à la question, à ce que dit Edgar Pisani, et par rapport au progrès, aujourd'hui, si vous voulez, et ce que vous dites, à savoir votre frère, il y avait incontestablement des progrès et augmentation du niveau de vie. Mais aujourd'hui, la question qui se pose, par exemple, qui se posait pour les travailleurs de l'amiante, mais qui se pose aujourd'hui pour les agriculteurs et qui se pose partout où les gens travaillent, ont besoin de travailler, de produire plus pour moins cher. La question, c'est quel emploi on a, quoi. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut continuer à perdre sa vie, à vouloir la gagner, pour citer un slogan.
Est-ce qu'à l'époque, donc dans les années 60, on savait le risque? Est-ce qu'il y avait déjà des doutes qui étaient scientifiquement exprimés de façon suffisamment tangible?
Alors sur l'amiante, les premières études montrant la nocivité de l'amiante, alors je vais pas faire un petit cours, en plus j'en serais incapable, mais ça date quand même du début du 19e siècle. En France, 1906, un inspecteur du travail de Normandie, qui travaillait dans une filature d'amiante, a remarqué un nombre de décès très important. Et après, il s'est écrit dans le film...
Vous le signez dans le film que dans les années 30, en particulier, il y a des études sur l'amiante qui sortent.
Et dès 1945, l'amiante et l'asbestose, plus particulièrement, est cité comme une maladie professionnelle. Et pourtant, l'amiante ne cesse de se développer après la guerre. L'usage de l'amiante ne cesse de se développer après la guerre, pour se terminer en 97 après des années de lutte et puis des milliers de morts qu'on n'a pas compté aujourd'hui. Parce que si aujourd'hui on a identifié ceux qui sont morts de l'amiante, parce qu'en fait l'amiante provoque une maladie particulière qui s'appelle le mésothélium, qui est un cancer de la plèvre, qui est en général uniquement provoqué par l'amiante, et on peut très bien cibler d'où viennent ces maladies. Mais par contre, pour ce qui est des pesticides, c'est beaucoup plus compliqué, parce qu'en fait les pesticides peuvent provoquer des tas de sortes de maladies, des cancers évidemment. Alors il y en a certains qui commencent à rentrer dans la catégorie des maladies professionnelles, les lymphomes non hodgkiniens par exemple. Il y a aussi des maladies neurologiques comme la maladie de Parkinson, Et j'ai dans mon film le témoignage d'un agriculteur, d'un ouvrier agricole. Tout à l'heure, ça m'a fait réagir aussi ce que vous disiez sur votre frère. Un ouvrier agricole qui s'appelle Gilbert Vendée, qui a été contaminé par le gaucho et qui est maintenant atteint de Parkinson et qui raconte la difficulté de sa lutte pour faire reconnaître sa maladie, même vis-à-vis de ses collègues agriculteurs qui le regardent d'un mauvais œil en disant « tu vas chercher de l'argent en utilisant ta maladie ». Et ça, c'est extrêmement difficile à supporter.
On écoute la bande-annonce de votre film, qui apaisera.
En 1994, les scandales de l'amiante éclatent partout en France.
Bon, il y a deux mesures simples, si vous voulez. La première, c'est un bannissement complet, c'est-à-dire une interdiction totale de tout travail et de toute importation, de tout commerce avec l'amiante en France.
Mais c'est pas ça l'âme du combat. C'est qu'il faut arrêter d'empoisonner les ouvriers.
Depuis 16 ans que je défends les victimes de l'amiante, jamais aucun employeur ne s'est présenté à une audience du tribunal des affaires de sécurité sociale. Jamais.
Je n'ai pas pris de précautions particulières. Une chaleur est sortie de cette cuve. J'ai senti quelque chose qui me chauffait tout le corps. Tout de suite, il a fait le comparatif avec l'amiante. Ça m'avait frappé. Lui me disant, ça va être un scandale sanitaire aussi grave, voire plus important que ce qui s'est passé dans l'amiante.
Le droit ne s'arrête pas aux portes des usines. On n'a pas, ça voudrait dire qu'on a le droit, on n'a pas le droit de tuer dans la société, dans la cité. Mais derrière la porte de l'usine, on peut tuer. Et non, 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 bien sûr que non.
Les crimes industriels commis à l'aide de cancérogènes sont des crimes parfaits.
On a 355 000 nouveaux cas par an. On a moins de 0,5% de cas qui sont reconnus en maladie professionnelle.
Il y a quand même quelque chose qui est commun. C'est qu'à un moment donné, il y a des industriels qui, au nom du profit, sont capables de mettre la vie de personne en danger. Au nom de ce profit, on est capable de tuer.
S'attaquer au patron de Triskelia, vraiment, c'est compliqué en Bretagne.
C'est pas normal qu'on est en train d'empoisonner l'humanité et tous ces saloperies.
Pierre Pézerin, on entendait là dans la bande-annonce cet avocat, je crois que c'est Maître Jean-Paul Tessonnière, qui parle de crime industriel à propos de ce qui se passait, alors qu'en droit pénal, on parle, je parle sous votre contrôle, de faute d'imprudence, hein, donc on est effectivement très très éloigné dans la terminologie. Et ce qui est frappant dans le film, c'est que les employeurs et l'État ne sont pas toujours du côté des victimes. Est-ce que vous pensez que le droit, eu égard à l'enquête que vous avez menée, aux témoins que vous avez rencontrés, que le droit est adapté aujourd'hui à la situation en France?
Alors, dans les affaires de l'amiante, on peut dire que sur le plan des indemnisations de victimes et de familles de victimes, le droit français a été relativement bien adapté. Par contre, ce qui n'est pas du tout adapté, c'est la fonction pénale, la justice pénale par rapport à ces crimes-là. La justice française refuse de reconnaître comme des actes de personnes, des actes qui méritent la justice pénale, refuse de convoquer devant la justice des personnes. Ce que dit François Laforgue, à un moment dans la bande-annonce, c'est que jamais, devant les victimes de l'amiante, jamais aucune personne qui était responsable, dirigeant une usine ou ayant pris des décisions qui ont abouti à l'intoxication d'ouvriers, ne s'est présentée devant la justice. Et ça, c'est juste pas possible pour les victimes, parce que ils ont affaire à des avocats qui sont payés, mais ce sont pas les avocats qui ont empoisonné. Et donc il y a une espèce d'absence totale de symbolique, si vous voulez, de la réparation que demandent les victimes. Vous avez parlé de Jean-Paul Tessonnière. En fait, ce qu'il dit Jean-Paul Tessonnière, c'est que les crimes industriels sont des crimes, enfin les crimes commis à l'aide d'agents cancérogènes sont des crimes parfaits. Et pourquoi ce sont des crimes parfaits? Parce que quand il s'agit d'une blessure par balle ou par couteau, etc., on peut disséquer, etc. Mais quand c'est un cancer, en fait, c'est juste, c'est impossible de savoir. Personne ne peut remonter la source du cancer. Ce n'est que l'épidémiologie qui peut permettre, au terme d'études très longues, de prouver que finalement tel matériau peut provoquer des cancers.
Alors, on parlait de procès et de droit à l'instant, Gisèle Bienne. Il y a quand même aussi dans ce récit qui est très humain, très très poignant, très personnel aussi, toute une part de réquisitoire, hein, au sens propre, hein, contre Bayer, contre Monsanto, contre ces grandes firmes ont donné tant de produits à l'agrochimie. Vous rappelez le passif qui entoure l'activité de ces deux firmes, et c'est vrai que ça fait froid dans le dos.
C'est vrai qu'ils ont des passés qui ne sont pas très reluisants. Il y a eu la Première Guerre mondiale, par exemple, la génération de mes grands-parents qui l'ont faite. Bayer a fabriqué le gaz lipérite contre les soldats qui a été utilisé dans la région d'Ypres en Belgique. Bon, les Français ont répondu après. Mais pendant l'entre-deux-guerres, ils ont été très favorables, bien sûr, à la montée d'Hitler. Et quand le grand complexe d'Auschwitz s'est créé, ils ont utilisé des femmes déportées comme cobayes pour des expériences atroces. Et Bayer faisait partie du cartel IG Farben, qui procurait aux nazis le cyclone B, c'est-à-dire le gaz qui servait dans les chambres à gaz.
Voilà, et Monsanto a fabriqué l'agent orange.
L'agent orange, c'est le défoliant qui a été déversé au Vietnam et qui a ravagé les cultures et tué des personnes, et dont les conséquences sur les personnes sont encore présentes aujourd'hui.
Et vous avez envie de coller une forme d'étiquette, de sceau d'infamie sur ces marques-là? Ça fait partie de cette réparation qui pourrait
accompagner
le deuil que vous avez subi?
C'est quand même le monde à l'envers, quoi. Il faut que Paul François, qui a d'ailleurs créé une très belle association, l'association Phytovictimes, il est devenu actif. Cette association prend en compte toutes les plaintes qui sont déposées contre Monsanto, et ça c'est très beau. Mais enfin, Monsanto n'a fait que mentir, Monsanto n'a fait que faire de faux rapports. Ce n'est pas Paul François qui devrait faire le procès pour se défendre. C'est un procès contre Monsanto qui devrait.
La justice dira ce qu'il en est.
Oui.
Bon, de toute façon. Aujourd'hui, Pierre Pezerat, est-ce que l'on est en train de tirer toutes les conséquences de ce qui s'est passé dans le dossier de l'amiante et dans le dossier des pesticides? On sait que la question du glyphosate est évidemment au cœur de l'actualité. Est-ce qu'on a compris, d'après vous?
Eh bien, ma réponse est catégorique, non. Si vous voulez... Je vous ai parlé du pénal dans l'affaire de l'amiante. Tant qu'aucune personne ne sera déférée devant un tribunal pour répondre de ses actes, ça fera peur à personne, puisque finalement ce sont des sociétés qui sont condamnées, et les dirigeants de ces sociétés qui prennent ces responsabilités, qui agitent l'épouvantail du chantage à l'emploi, sont sûrs de ne pas comparaître devant la justice. Donc bien évidemment, les conséquences ne sont pas prises en compte. Il y a aujourd'hui effectivement une prise de conscience dans la population qui est très nette. Si on faisait un sondage aujourd'hui sur l'interdiction du glyphosate, je pense que 80%
des gens... Prise de conscience des politiques aussi.
Alors des politiques, oui, mais alors ça, c'est, il y a les paroles et puis après il y a les actes. Et aujourd'hui, on voit qu'en fait, il y a des groupes de pression terribles au sein du gouvernement. On sait tous que le ministre de l'Agriculture est nommé par la FNSEA.
Oui, enfin, peu importe, mais toujours est-il
nommé, adoubé par la FNSEA. Donc il y a des groupes de pression terribles
On peut vous dire aussi, on peut pas demander du jour au lendemain aux agriculteurs de renoncer aux produits phytosanitaires.
Il y a des choses qui ont été très vite dans le passé. Et en fait, si vous voulez, il y a quand même des impératifs financiers, des impératifs économiques qui sont derrière toutes ces histoires-là. Et la vente de produits, entre guillemets, phytosanitaires, qui est un juteux marché, fait partie de ces obstacles, justement, à un changement novateur et total sur l'arrêt des pesticides.
Merci beaucoup à tous les deux, Pierre Pezerat, Les Sentinelles, DVD chez Destiny Distribution, et puis Gisèle Bienne, merci à vous, La Malchimie, paru, je le rappelle, aux éditions Actes Sud. Dans un instant, l'info sur RFI, à demain, et vous m'en direz des nouvelles.